Combien de langues pour l'après ? Qu'est-ce qu'une épithète cétacée ? Connaissez-vous l'argot crustacé ? Comment la poésie est-elle une réponse aux outrances capitalistes ? Les premières lignes d'un livre sont souvent décisives pour aller plus loin dans la lecture ou le reposer sur la table du libraire. Or, ainsi commence l'invention de la mer. Je viens de vous lire le début. On va donc y aller. Un roman d'anticipation de Laure Limongi en phase directe avec le sommet de Nations Unies sur l'océan qui se déroule à Nice. L'histoire se passe en 2123. La Terre a rétréci au profit de la mer. Une série de catastrophes et d'épidémies ont décimé l'espèce humaine. Seule survie des êtres hybrides, mi-femme, mi-poulpe, mi-homme, mi-crabe. Bonjour Laure Limongi.
Bonjour.
Quel avenir, vous nous imaginez ?
Noir. Oui, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, c'est surtout les scientifiques qui ont l'air de faire ce genre de propositions, en tout cas, c'est ce qui a l'air de s'annoncer pour nous, la montée des eaux, le réchauffement climatique. Donc je pense que le point de départ, c'était effectivement une forme de sidération et peut-être d'immobilisme face à ces peurs qui sont très profondes et de trouver cette solution un peu fantaisiste, voilà, d'imaginer un futur où on va sans doute en parler, où pour pouvoir répondre à cette montée des eaux et à ce nouveau monde, on est obligé de s'hybrider avec des espèces marines.
Oui, vous nous proposez donc un avenir qui n'est pas tout à fait si sombre que cela, puisqu'il y a une chance, l'hypothèse d'un nouveau monde. Avec cette hybridation, l'espèce humaine doit changer, va changer. Il faut, dites-vous, en finir avec la mantaphobie. C'est quoi la mantaphobie ?
Bah, c'est quand on a peur, quand on se pense vraiment très très au-dessus de toutes les espèces. Effectivement, le point de départ, c'était aussi de se rendre compte à quel point l'être humain avait du mal à se connecter à l'ensemble du vivant, ce qui est quand même ce qu'il est. Ce n'est qu'un animal parmi les autres animaux, même si c'est un animal qui a Internet. Et clairement, je pense que ça fait vraiment partie du problème actuel, cette espèce de prétention humaine à vouloir tout, le fameux maître et possesseur de la nature qu'on connaît très bien, à vouloir tout contrôler, tout diriger. Et on se rend bien compte que ça crée un hubris qui est destructeur justement, on est en train d'en parler très clairement en ce moment à l'UNOC, notamment pour l'océan, qui est quand même la condition de notre survie. Et donc, pour moi, imaginer cette hybridation, c'est-à-dire le fait de carrément sortir de l'intégrité de l'espèce humaine, c'était une réponse à des choses qu'on entend aujourd'hui, à des peurs qui sont d'une grande absurdité par rapport à des gens de pays différents, par exemple. Donc j'ai poussé le curseur un peu plus loin, le bouchon un peu plus loin, en me disant mais qu'est-ce que ça serait ? Est-ce que l'humanité ne gagnerait pas finalement à sortir de sa prétention et de son intégrité ?
Et puis quand on parle de mantaphobie, il faut rappeler que c'est un concept inventé par un zoologiste américain qui l'a à entendre que les animaux finalement n'ont pas d'intelligence, pas de conscience, pas de sensibilité, donc on serait forcément supérieur et on les négligerait. Et tout votre roman démontre l'inverse, puisque les personnages sont mi-homme, mi-poisson, crustacé, cétacé, etc. La narratrice du roman, Violetta Benedetti Ogundipe, est une femme, mais mi-femme, mi-poulpe.
Oui.
Et elle est critique littéraire. Et elle va découvrir, ou plutôt elle va nous faire découvrir, parce qu'elle en est une spécialiste, l'ondulature. Là aussi, ça demande précision.
J'ai imaginé effectivement que... Alors forcément, dans ce nouveau monde qui se passe dans une centaine d'années, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. Le primat de l'image et de l'image animée notamment, le capitalisme. Et ce qui relie effectivement les êtres humains, on est à la radio donc on le sait, et les espèces animales, c'est l'onde. Et c'est le fait de pouvoir communiquer par l'onde. Et donc Violetta Benedetti Ogundipe est passionnée par ces nouvelles écritures hybrides, tout ce qui est en train de naître dans ce nouveau monde. Et elle a aussi, elle met en valeur des écritures de ce monde-là. Elle a aussi une émission de radio, donc elle émet depuis son poste, elle fait des podcasts. Et donc elle conceptualise un peu ce qu'est cette nouvelle littérature qui est devenue une ondulature.
Donc c'est la littérature des ondes, en fait.
Tout à fait.
Est-ce que ce roman est une alerte, Laure Limongi, ou c'est juste une pure imagination parce qu'il est peut-être trop tard ?
C'est une excellente question. En fait, c'est quand même l'idée de trouver des moyens de porter le regard, l'imagination, l'attention vers ces espaces. Enfin, mon caractère est très optimiste, mais la réalité a tendance à me donner peut-être tort. Donc, il est évident qu'on est très, très inquiet. Et si on s'intéresse un peu aux données scientifiques, on ne peut pas être autre chose que très inquiet. Mais je pense que rien n'est perdu. Et quand même, l'humanité prouve que voilà, si tout le monde s'y met, s'il y a un sursaut, on peut changer les choses. Et donc, clairement, je pense que remettre des nouveaux imaginaires dans cet espace qui est méconnu et donc surexploité, ça peut aider à prendre conscience des choses et à réveiller le public, en quelque sorte.
Il y a en tout cas un plaisir ou une fascination, je ne sais pas quel est le mot juste, chez vous pour l'océan, pour le milieu marin, pour les vagues, pour l'horizon, pour ce qui se passe en dessous, ce mystère, parce qu'on connaît très peu de choses finalement des abysses. Ce plaisir ou cette fascination vient d'où ? C'est parce que vous êtes corse ?
Eh oui, je le crains.
C'est vrai ?
Oui, j'avais écrit un livre précédent qui s'appelait « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains ». Donc c'est vrai que ça fait longtemps que cet élément m'interpelle. Enfin, c'est un élément qui a toujours été... J'ai l'impression que ça a été un élément avec lequel je suis en dialogue depuis toujours. Et c'est le cas de beaucoup d'insulaires. Et complètement ambivalent, à la fois quelque chose qu'on observe avec fascination. Moi, j'adore les changements de couleur de la mer tous les jours à Bastia, et notamment l'hiver, quand c'est des sortes de bleu-gris acier magnifiques. Et en même temps, c'est une clôture maritime. Et donc, il y a cette espèce d'angoisse de se dire que cet élément qui est si beau, qui nous entoure, et la Méditerranée, pour tous les Méditerranéens, c'est ça. En même temps, c'est ce qui nous enferme. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai cette réflexion et j'ai souhaité la mener un peu plus loin en faisant notamment pas mal de recherches scientifiques pour ce livre, justement pour essayer de voir comment sensibiliser, comment moi-même porter un regard sur toutes les créatures vivantes qui sont sous l'horizon.
Mais la mer, qu'elle soit méditerranéenne ou qu'il soit atlantique, l'océan ou Pacifique, c'est aussi un miroir formidable pour l'imagination. Enfin, je sais pas si c'est un miroir, mais c'est une surface formidable pour l'imagination, de toute façon.
Oui, d'où le titre « L'invention de la mer ». Effectivement, de tout temps, il y a eu des mythes, des monstres marins terribles. C'est effectivement une surface qui nous renvoie beaucoup à nous-mêmes également, donc qui crée bien des histoires.
Laure Limongi, vous allez nous raconter donc ce qu'est cette ondulature qui connaît quelques grands noms comme Gina de Galène ou Ménipé Zalé. Mais en attendant, je vous propose de découvrir Mathieu Deslongchamps. C'est un jeune artiste qui sort son deuxième album, Le Vert et le Bleu, avec ce titre « Nos bâtisses ».
Accroché aux branches des oliviers, exalté par le vent, le linge blanc des jours heureux, séché tout en dansant, comme pour mieux nous dire adieu. D'ici nous dominions la baie, à l'ombre des pins, comme une famille de naufragés, nous scrutions l'horizon en vain, comme pour mieux nous rassurer que personne ne viendrait d'ici nous déloger. Mais tous les murs se flétrissent. Non, il n'y a pas de paradis sur terre. Et tout le sel que dépose la mer a eu raison de nos bâtisses. Ce soir, nous remettrons la clé, noble mais vaincu. Sur notre bonheur échoué, ils écriront vendu, comme pour mieux nous effacer. D'ici nous dominions la paix, à l'ombre des pins, vivions la Méditerranée comme dans un film italien. Où le drame n'est jamais loin. Mais tous les murs se flétrissent. Non, il n'y a pas de paradis sur terre. Car tout le sel que dépose la mer a eu raison de nos bâtisses. pense à nos voeux gravés dans la pierre, que personne ne viendrait. Non, personne ne viendrait d'ici nous déloger.
Mathieu Deslongchamps sur RFI et une plongée dans les mers en 2123 avec notre invité Laure Limongi qui signe un nouveau roman, une dystopie, l'invention de la mer. Alors la question de savoir et que l'on peut poser à certains auteurs ou autrices, est-ce que vous êtes le narrateur ou la narratrice? Est-ce qu'elle se pose cette question dès lors que votre narratrice est une femme poulpe?
Alors j'ai un peu caché mes tentacules.
Mais je ne les vois pas.
Ils sont cachés sous la veste. Oui, alors déjà pour moi c'est davantage une utopie qu'une dystopie en fait, puisque la dystopie ça aurait été qu'il n'y ait plus rien, enfin qu'il n'y ait plus d'écriture, qu'il n'y ait plus d'art. Finalement ça continue, mais bon c'est un petit peu moins sans notre intégrité on va dire. Mais oui, je crois que je me suis pas mal diffractée dans chacun des personnages à vrai dire, c'est-à-dire le goût. Enfin j'ai été éditrice aussi, donc le goût de la recherche, de la présentation, de la mise en valeur des nouvelles écritures, notamment de Violetta, et quelques éléments biographiques dans le récit Cétacé. Et puis oui, j'aime bien la trajectoire de notre ami Crabbe aussi, Chimère Crabbe.
Alors, ce qui est réjouissant, vous dites utopie, c'est vrai, ce qui est réjouissant, c'est qu'en 2123, les êtres vivants aiment toujours les histoires. Mmh. Hein, et ils aiment donc les livres, même si ça prend d'autres formes. La chimère poulpe, femme poulpe, écrit avec son encre. Donc, c'est assez logique qu'elle soit un peu vous. C'était d'ailleurs la thèse de la philosophe Vinciane Després qui a écrit Autobiographie d'un poulpe, que vous remercier à la fin du livre. Donc j'imagine que vous l'avez lu, que peut-être elle vous a un peu inspiré.
Ah oui, mais il y a Ursula K. Le Guin, évidemment, en tout premier lieu. Il y a toute une série de gratitudes à la fin de l'ouvrage, parce qu'évidemment, quand on écrit, on est composé de toutes les lectures qu'on a faites. Et c'est vrai que l'autobiographie d'un poulpe de Vinciane Després a fait partie des grands jalons de cette histoire. Et j'espère qu'on sera nombreux à faire parler et à imaginer toutes ces écritures et tout ce qui peut être créé par le vivant.
Alors, comment écrivent ces chimères en 2123? Le français a disparu. Vous dites que c'est une langue morte. Donc l'Académie française aussi, j'imagine.
Hélas.
Mais votre narratrice est l'une des rares. Pourquoi on rit quand on dit l'Académie française a disparu? Mais votre narratrice est l'une des rares à connaître ce vieux français. Elle va donc traduire les récits d'Ondulature en français, ce qui nous permet de découvrir de nouveaux écrivains. Et le livre est composé de deux mini-textes, de courts textes, qui sont des œuvres de ces fameux écrivains, écrivaines, qui sont des chimères, dont la première est Gina de Galen. Présentation, Laure Limongi.
Alors, Gina de Galen, c'est une chimère cachalot. Donc, j'ai hésité parce que les cachalots s'appellent eux-mêmes des aimables. Donc, c'est toujours un petit peu étrange de les appeler à nouveau cachalots. Gina de Galen, elle fait le choix. Donc, c'est un personnage qui est très investi, notamment dans la judiciarisation du vivant, et qui a fait le choix dans son premier texte de raconter l'histoire d'une de ses aïeules qui a vécu entre les années 1940 et 1980. C'est-à-dire un moment où la chasse à la baleine était très intense. Et donc, c'est une manière pour elle de montrer à quel point il y avait des ruptures de génération, à quel point la vie de ses ancêtres était difficile. Alors, je me suis basée sur des écrits de scientifiques, de plongeurs qui décrivent comment vivent ces grands animaux marins, donc en matriarcat, par groupe, etc. Tout ce qui est raconté, c'est vraiment issu d'observations qui ont été faites par des scientifiques et des plongeurs. Et donc, moi, voilà, j'ai imaginé comment son aïeule, Moanora, dont elle raconte la vie, la traverse à la fois avec un mélange de résilience, même si j'aime pas trop ce terme, en l'occurrence ça s'adapte très bien au peuple des grands mammifères marins, et de joie quand même, et de création. Donc voilà, c'est une sorte de tranche de vie, d'une vie d'un matriarcat, enfin d'un groupe de cachalots entre les années 40 et 80.
Qui se fait des câlins en se frottant les uns contre les autres.
Oui, c'est une espèce très câline.
C'est une espèce très câline, mais vous allez au-delà, parce que vous racontez aussi l'épopée, les ancêtres des ancêtres, puisque finalement les cachalots sont beaucoup plus anciens que les hommes, et on va même croiser Énard, qui sera la baleine blanche de Moby Dick, c'est bien ça. ça. Hein.
Oui, j'ai eu très envie de réécrire Moby Dick vu du point de vue du cachalot. En tout cas, un petit morceau qu'on essaie de comprendre les motivations de Moby Dick, qui s'appelle en réalité Einar Blancourou pour son peuple. En fait, lire tous ces livres de scientifiques, ces documentations, ces documentaires, etc., m'a donné vraiment l'image d'une culture très avancée en réalité, sachant que les grands mammifères marins, ils vivent vieux normalement, donc il y a vraiment une transmission. De plus en plus, on est en train de dire qu'il y a une langue avec l'intelligence artificielle qui essaie de trouver comment la déchiffrer. Donc clairement, je me suis dit, bah, s'il y a tout ça, il y a un récit des origines. Et en étudiant notamment l'histoire de l'espèce, donc la sortie de l'eau, le retour sur Terre, le retour à l'eau, voilà, ça m'a donné envie d'imaginer cette grande matriarche des matriarches, Ada de Ada, et comment elle explique, avec tous les mots du mythe finalement, comment les cachalots, les aimables, deviennent ce peuple de la mer qui est un peuple, oui, très sympathique, très placide et voilà, très attachant.
Et qui va connaître un génocide, donc, avec les grandes chasses à la baleine que vous évoquiez au milieu du 19e siècle. Alors, vous parliez de la langue, leur limongi. C'est très difficile à traduire, la langue des cétacés, mais vous réussissez. Enfin, en tout cas, votre personnage réussit. C'est une langue à clics.
Oui.
Et donc, vous traduisez cette langue à clics. Alors, bien sûr, c'est de la fiction, hein, mais vous traduisez cette langue à clics en français d'aujourd'hui.
En opso humain français.
En opso humain, oui.
Pour nous, c'est du français d'aujourd'hui, mais pour Violetta, c'est de l'opso humain. Oui, alors, c'est vrai que le personnage de Violetta, ça m'aide à faire pas mal de choses, notamment Violetta...
Donc, écrit la narratrice.
La narratrice écrit des postfaces, en fait, à la fin de chaque manuscrit. Et donc, pour moi, c'était l'espace rêvé pour pouvoir transmettre toutes les connaissances scientifiques passionnantes que j'avais accumulées pour écrire ce livre, et aussi pour qu'elle justifie ses choix de traduction. Donc, parfois, elle explique que forcément, c'est imparfait, mais qu'elle a fait ce choix de traduction pour telle et telle raison. Donc là, je me suis évidemment un petit peu amusée. J'ai aussi été un peu lexicographe dans une vie antérieure. Donc, ça donne... Enfin, c'était... Je précise à cette occasion que c'était vraiment un grand, grand plaisir d'écriture, d'imaginer tous ces passages de langue à langue.
Oui, et puis un lexique, d'ailleurs, à la fin... pour savoir que les aimables, eh bien, ce sont les cétacés, que les poètes, ce sont les mâles des cétacés, que les aériens, ce sont les oiseaux, etc., ouais. etc. Alors, c'est difficile de traduire la langue des cétacés. Ça me semble aussi assez compliqué de traduire la langue des chimères crabes. Or, c'est ce que vous faites dans la deuxième partie du roman, avec la traduction d'un roman de Ménippe Zalé, je ne sais pas si je prononce bien, qui, dites-vous, bouleverse le champ des écritures chimères. Pour quelle raison ?
Ah bah, Ménippe Zalé, je pense qu'avec les grands mammifères marins, on était un peu dans du connu. Et quand on arrive effectivement au peuple crustacé, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup moins de livres de référence d'ailleurs sur le sujet. Et donc pour moi, il fallait en faire un personnage un peu disruptif, quoi. Et clairement, c'est donc dans la fiction du livre, ces chimères crustacées sont d'abord créées pour des raisons belliqueuses. Dans la mer de Michelet, quand il donne une description d'un crabe, il dit que si c'était ramené à l'échelle humaine, ça serait genre effrayant, mais vraiment, ça serait le plus grand guerrier qu'on puisse voir. Et donc, c'est ce que j'ai imaginé, que c'était la raison pour laquelle on les avait créés. Et que donc, ils avaient à vivre avec cette violence très, très forte en eux et à faire coexister aussi avec leur origine humaine. Et donc, finalement, c'est un roman d'initiation, ce roman de Ménippe Zalé. Donc, il part de ça, de cette espèce, il appelle ça une fin qu'il ne peut pas nommer, il ne sait pas quoi en faire. Et comment il traverse et les mers et les océans et la vie en sortant de tout ça, en s'accomplissant grâce à une pratique poétique et dansée.
C'est-à-dire qu'il fait de la lutte et il écrit des poèmes plutôt olfactifs. J'aimerais d'ailleurs, Laure Limongi, que vous nous lisiez une des poésies de cette chimère crabe. Parce que bien évidemment, à la fin du livre, il y a les poèmes du crabe.
C'est une vague rouge, une vaste flaque de sang qui se répand, mouvante, de l'intérieur des terres à la lisière. Elle crépite sur les feuilles, les vestiges de terrasses en bois, les ruines céramiques, les restes de bitume. Elle crépite. Ça résonne sous les couverts de feuilles, dans les tunnels. L'écho du temps qui passe en secondes emballées. Une longue symphonie percussive, créée par des dizaines de milliers de pattes courant à l'unisson d'instinct. La répétition de l'histoire est inscrite dans leurs gènes. La lune est bavarde. Je m'en souviens aussi un peu. Mais je sais bien qu'eux refusent le cousinage. Comment leur en vouloir ? Je fais presque 100 fois leur taille et je ne suis pas qu'eux. La longue file écarlate va à toute vitesse, la mort court derrière elle. Et elle a bien des visages prédateurs. Des mammifères aux fourmis qui, sournoises, aspergent leurs yeux d'acide avant de dévorer leur chair aveugle. Quand tout pourrait sembler perdu, le rivage apparaît. Les mâles construisent des terriers avant la parade nuptiale. Les femelles s'y protégeront le temps de l'incubation, leur trésor lové contre leurs entrailles.
Imaginez un crabe poète. Il faut quand même avoir beaucoup d'imagination, Laure Limongy.
Non, beaucoup d'observations peut-être.
Vous les entendez des fois sur le bord de la plage ?
Ils peuvent crier. En tout cas, je les observe beaucoup. Alors, en tout cas, c'est un poète danseur. Donc, clairement, les crabes dansent. On peut imaginer qu'ils fomentent aussi de la poésie. Pourquoi pas ?
C'est en tout cas une origine, enfin une espèce plutôt, qui a 700 millions d'années. Donc,
oui.
Ils ont forcément une histoire bien supérieure. J'utilise le mot avec des guillemets, à la nôtre.
Oui, puis c'est pas mal d'utiliser le terme supérieur, effectivement, quand on parle de ces différentes espèces, parce que c'est également dit dans la postface de Violetta, ça fait partie des espèces qui sont surexploitées par l'homme pour de multiples utilisations, que ce soit cosmétique, dans la santé, etc. Donc c'est important d'essayer de changer de point de vue, de changer de regard et de se dire que ce sont aussi des cultures à part entière.
Oui, et de ne pas avoir un rapport de prédation comme on l'a eu depuis des siècles, mais de penser que finalement le crabe est notre avenir.
Oui.
Réfléchissons, si le crabe était notre avenir.
Le crabe et toutes les créatures, je pense que c'est un peu la condition de notre survie, à vrai dire, et la clé. Et puis, pour toucher peut-être aussi davantage de gens, ça peut être aussi la clé de passer notre vie différemment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de crises en ce moment, de solitude. Imaginez que tout ce qu'il y a autour de nous bruisse de création et d'inventivité, que le moindre pigeon qu'on peut croiser à Paris, qu'il y a des choses qui se passent autour de nous et qui sont pleines de création. Enfin, le chant des oiseaux, c'en est un exemple. Je pense que ça permet de traverser la vie autrement aussi.
Donc, il faut reconsidérer notre rapport au vivant. C'est un peu ce que dit le livre.
Il me semble que c'est vraiment fondamental, à la fois pour ce qu'on doit au vivant, puisque je le répète, on est tous connectés, on n'est pas supérieur au crabe, on n'est pas supérieur. Tout ça est vraiment une grande chaîne dont nous faisons partie et que nous sommes en train de dérégler de manière dramatique. Donc je pense que c'est la condition de changer de vision du monde et peut-être, j'espère, d'espérer une survie.
Donc, reconsidérer notre rapport au vivant et à cette catégorie qui est celle des animaux. C'est d'ailleurs tout le travail de Vinciane Després que l'on a évoqué tout à l'heure, qui est philosophe des sciences, écrivaine et très engagée dans ces questions du vivant. Elle s'intéresse aux poulpes, on l'a dit, on a cité son livre, mais aussi au wombat, qui est une sorte de petit ourson australien et qui est une espèce menacée.
La catégorisation animaux ne tient plus vraiment la route. Une fois qu'on fait tomber toutes ces dernières barrières qui sont la barrière de... On a fait tomber la conscience de soi, on a fait tomber le rire, enfin on a fait tomber pas mal de barrières qui étaient ce qu'on appelle le propre de l'homme. Mais une fois qu'on en vient à reconnaître que les animaux ont non seulement des formes d'écriture, mais avec les wombats, les scientifiques vont même pousser les choses un peu plus loin et dire finalement les chimpanzés, finalement ce sont des arriérés littéraires. Les wombats et d'autres animaux sont beaucoup plus sophistiqués. Et ça opère un point de bascule. Et est-ce qu'on peut encore parler d'animaux dans ces cas-là, sachant que la catégorie animaux est une catégorie qui a été créée par opposition à la catégorie humaine. Mais une fois que les derniers talents, les dernières compétences apparaissent tellement mieux distribuées, il est fort probable que les scientifiques, à ce moment-là, parleront de wombats, parleront de kangourous, parleront d'araignées, parleront de poulpes, mais ne diront plus la catégorie des animaux en général.
Laure Limongy, est-ce que vous partagez l'avis de Vinciane Després ? L'entendre vous a fait sourire.
Oui, j'adore la pensée et la voix de Vinciane Després, c'est toujours un bonheur de l'entendre. Je suis totalement d'accord avec elle, c'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre, je parle d'animaux humains. Il n'y a jamais le terme humain seul, pour justement le remettre dans cette catégorie, puisque c'est lui qui l'a créé finalement. Retour à l'envoyeur.
Alors votre livre, L'invention de la mer, a cette particularité d'être à la fois très scientifique, vous l'avez dit, parce qu'il a des explications très très précises, très documentées, mais aussi une invitation au rêve. C'était l'objectif que de tenir cette ligne de crête finalement entre la rêverie, la littérature et la science.
À mon avis, elles ne s'opposent pas. Effectivement, en tout cas, moi, dans mon travail depuis fort longtemps, le fait d'avoir des bases documentaires, théoriques, scientifiques fortes n'est qu'un appui à l'imagination et à la rêverie, effectivement. Et on le sent aussi dans le travail de Vinciane Després qu'on vient d'entendre, d'ailleurs.
Et le rêve fait du bien. De toute façon.
C'est pas, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément un rêve, comme on pourrait dire, quelque chose d'anxiolytique et qui fait s'échapper de la réalité. C'est comment, à travers le rêve, on peut se donner les moyens d'imaginer un autre futur. J'ai l'impression que dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, on se sent tous et toutes un peu prisonniers, comme si on était dans un train et en fait, on n'a pas les clés de la cabine du conducteur et on ne peut rien faire. Alors que ben non, on peut changer la direction des voies, on peut changer de vitesse, on peut changer plein de choses. Et le fait de faire des expériences de pensée, parce que ce livre, c'est un petit peu ça, c'est une expérience poétique et une expérience de pensée, ça, j'espère que ça donne des outils, en tout cas l'idée, le pouvoir, le courage, je ne sais pas comment appeler ça, de se dire « ok, on peut changer les choses collectivement et individuellement aussi ».
Alors, préparant cette émission, Laure Limongi, j'ai consulté quelques articles et alors j'ai vu que vous prépariez un dictionnaire médical de littérature.
Oui, ça c'est un tout autre projet.
Pour faire dialoguer littérature et médecine, oui. En proposant des consultations de bibliothérapie créative.
Oui, ça s'appelle le service des panacées. Je le développe depuis presque 2 ans maintenant. J'ai commencé à la Villa Médicis donc quand j'y étais l'année dernière. Et là, le présupposé, c'est effectivement de faire se rencontrer le milieu, la médecine, on va dire, et la littérature, pour parler à grands traits, et de proposer notamment des consultations pendant lesquelles je propose donc des consultations de bibliothérapie. Donc, je réponds à l'énoncé d'un trouble par une ordonnance, 2 livres avec leur posologie. Je précise que c'est une démarche artistique, mais qui néanmoins postule justement le fait que la lecture peut très profondément modifier plein de choses en nous et que la pratique de la lecture peut faire partie du soin.
Et cela permet de faire tomber les barrières justement entre la science et la littérature. Votre livre soigne de quoi ? Vous le prescrivez pour quels symptômes ?
L'invention de la mère. Alors, oui. J'avoue que je n'ai pas l'inélégance de me prescrire moi-même. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, je n'y ai pas pensé, du coup. Je ne sais pas trop pourquoi je suis trop dedans. Parce que moi, évidemment, l'ayant écrit, j'espère qu'il peut avoir que des effets positifs, que ça serait la panacée des panacées, évidemment. Mais voilà, il faudrait qu'un autre bibliothérapeute, peut-être, m'en dise un peu plus.
Et qu'attendez-vous de Nice, puisqu'on est en plein dans cette actualité du sommet des Nations Unies sur l'océan à Nice ?
Alors, j'ai vu que les déclarations de notre président n'ont pas forcément remporté un enthousiasme démesuré parmi les associations et les ONG.
C'est loin qu'on puisse dire.
Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse en attendre vraiment grand-chose. En tout cas, moi, j'y pars demain. Donc, je vais faire un petit saut là-bas pour voir comment ça se passe. Je pense que ça peut de toute façon mettre l'accent sur plein d'éléments scientifiques, justement, que moi, je manie depuis pas mal d'années en faisant ce livre, mais qui ne sont peut-être pas connus de tous, sur les chaînes trophiques, sur l'importance de la protection, notamment des grands mammifères marins en Méditerranée, par exemple, il suffirait de baisser un petit peu la vitesse des bateaux pour éviter d'en percuter. Enfin, il y a plein de questions comme ça, assez simples, qu'on ne connaît pas. La question de la surpêche aussi, de quelques gestes simples à faire en consommation, tout simplement, ne pas manger de saumon, ne pas manger de capillot, ne pas manger de crevettes, essayer de manger que des espèces locales pêchées, enfin, qui ne viennent pas du bout du monde et qui n'affament pas d'autres populations. Voilà, c'est des choses assez simples qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment et voilà, pour des questions comme ça, ça peut être assez pratique.
Donc c'est important d'en parler. Merci beaucoup, Laure Limongi. L'invention de la mer est publiée aux éditions du Tripode et c'est l'occasion donc de découvrir l'ondulature et les romans de cette chimère baleine et de cette chimère crabe. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation et bien sûr vous pouvez nous suivre sur le site rfi.fr, sur l'application Pure Radio et sur la page Facebook de l'émission. À très vite.